19h-20h, le 19 hors taxe avec Mélanie.
Bonjour à tous, il est 19h tout pile aujourd'hui et on est le 19, on est jeudi, donc du coup jeudi c'est le 19 hors taxe. Aujourd'hui je ne suis pas toute seule dans les studios, nous avons un invité et c'est pour la première fois je crois un artisan qui va nous parler de son métier passion j'imagine. Bienvenue Thibaut.
Bonjour à tous.
Bienvenue, donc c'est la première fois en radio, première fois à FMR, on va découvrir ton métier dans quelques instants, on va le teaser un petit moment. C'est quand même quelque chose, moi je dirais que c'est poétique, on va dire.
J'ai pas le droit de le dire encore ?
Non, tu le dis pas,
okay.
On le garde encore un petit peu au chaud.
D'accord.
Alors au sommaire de l'émission, donc, du coup, on va parler du Tipeee Atelier, on va dire ce que c'est. On dit pas ce... S'il y a des curieux, ils iront chercher sur internet pendant la première chanson. on va en parler pendant toute l'heure, mais aussi il y aura des chroniques de culture générale, un agenda et bien sûr beaucoup de musique qui sont choisies par Thibaut ce soir, notre DJ. on commence tout de suite avec une première chanson que tu as choisie, il s'agit de Jimmy de Moriarty. On se retrouve juste après pour l'interview.
À tout à l'heure.
Please come home. The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your Grandpa Jimmy is still gonna die. There's Buffalo Jim, Buffalo Jim, there's Jim Buffalo, not a didn't you know. Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette, and there's Buffalo Piss, and it's all kind of wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose, our roads lead to Rome with the Buffalo.
C'est l'invité du 19 hors taxe. Attention, il y a des cafards dans l'escalier.
Est-ce que tu as remarqué les cafards dans l'escalier ?
Oui.
Ah,
oui, oui.
Il y a des cafards et des rats.
Non, j'ai pas vu les rats.
C'est accueillant, FMR.
C'est hyper sympa. Ouais.
C'est hyper sympa, ouais.
C'est convivial.
Et là, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il tremble. Il n'est pas bien, il n'est pas bien. Allez, on va tout de suite rentrer dans ton univers. Ton univers. Alors, le Tipeee Atelier, on va en parler un petit peu. Toi, déjà, est-ce que tu pourrais te présenter en tant que toi?
En tant que personne ou en tant qu'artisan?
Les deux.
J'ai le droit de raconter mon métier?
Tu peux raconter ton métier, c'est ton moment.
C'est mon moment. Alors du coup, je m'appelle Thibaut Nussbaumer, je suis alsacien d'origine et je suis arrivé à Toulouse pour la quête du soleil, entre autres. et je suis souffleur de verre. L'atelier Tipeee, c'est mon atelier que j'ai monté maintenant il y a 6 ans, en 2017. Et j'ai bourlingué dans plusieurs ateliers d'Europe pendant une dizaine d'années avant d'arriver à Toulouse.
D'Europe, carrément.
Oui, oui. Il y a eu le Danemark, la Norvège, la République tchèque. J'ai travaillé aussi en Lorraine dans une célèbre cristallerie pour faire mes classes, pour me faire la main. Et puis, il y a un moment, il était question de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de ce savoir-faire-là. Et je pense qu'en commençant, je me suis toujours vu dans monter ma propre boîte avec j'avais le caractère entreprenant et d'avoir envie de créer par moi-même en ayant appris des techniques. J'avais le langage, il n'y avait plus qu'à trouver le moyen de le mettre en œuvre, quoi. Voilà.
Très bien. Souffleur de verre, qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une excellente question, c'est hyper large.
Ouais, c'est pour ça.
Qu'est-ce que c'est? Alors, souffleur de verre, on va dire que c'est peut-être un dixième de mon quotidien. En temps effectif, donc l'atelier Tipeee, aujourd'hui on est trois et il y a toute une partie de production. C'est un atelier hybride qui est quasi centre-ville. On est en cœur de Toulouse.
On peut y aller en métro.
On peut y aller en métro, on peut y aller en trottinette, on peut y aller en voiture, en patin, roulette, à pied, tout ce que vous voulez. On est accessible et on est ouvert au public du mardi au samedi. Venez nous voir, venez découvrir ces coulisses. On s'est installé exprès ici en ville pour toucher un public le plus large possible. Parce que mon ambition en créant Tipeee, c'était de ramener l'artisanat d'art en ville, dans un contexte urbain, dynamique et visible surtout. Parce qu'il y a quelque chose de militant qui me plaît là-dedans, c'est de dépoussiérer un métier qui a une image parfois vieillotte. Et moi, en fait, j'ai découvert ce métier-là avec un regard neuf et en voyant l'éventail super large de tout ce que ça pouvait offrir. Et il y avait plein de pistes que j'avais envie de partager. Moi, j'ai trouvé ça fou en le découvrant, que ce soit aussi reclus ou caché, il fallait le montrer. Et d'un point de vue économique, en fait, ça n'a pas de sens de rester dans son coin et de le cacher. C'est une volonté de partage et d'ouverture vers le monde et la ville, quoi.
Très bien. Est-ce que tu es le seul artisan verrier de Toulouse?
Alors, le seul souffleur de verre, oui.
Souffleur de verre.
Ouais, le seul souffleur de verre à la canne, même. Il faut préciser.
Mais qu'est-ce que c'est la différence, du coup?
Alors, il y a plein de différences, il y a plein de strates dans le monde des verriers, mais l'atelier Tipeee, c'est le seul souffleur de verre à la canne à une centaine de kilomètres à la ronde, là, autour de Toulouse. Sinon, il y a des souffleurs de verre au chalumeau, donc on travaille...
Ah, c'est rigolo.
Ouais.
On souffle le verre ou on crame du verre?
Les deux. ça se chauffe et ça se souffle. Faut imaginer des laborantins, quand on travaille le Pyrex... Tous les réacteurs, ouais. Les ballons, les déchets, Erlenmeyer et tout ça. Ça, c'est du verre, de la verrerie de laboratoire. C'est fait au chalumeau. Sinon, on peut aussi faire des perles ou de très petits objets avec des baguettes en verre et un petit bec de gaz comme ça. Donc, c'est du verre filé. On peut faire des petites figurines aussi. Sinon, après, il y a les vitraillistes. On a alors, le terme est un peu hybride parce qu'il ne correspond pas à grand-chose dans l'imaginaire public, mais c'est des verriers fondeurs. Où on, plus traditionnellement, ça s'appelle la pâte de verre, et c'est les principes de la fonderie en métal qui sont appliqués au verre, ni plus ni moins. Donc on fait des sculptures en cire, ou des maîtres modèles en terre, ou je sais quoi. On va couler du plâtre réfractaire autour, et on va enlever le maître modèle, ce qui va nous laisser une forme en négatif, dans lequel on va placer du verre froid. L'ensemble, on le met au four, on fait chauffer tout ça, ça monte en température, le verre va couler et épouser toutes les formes, et on va se retrouver avec la forme en verre. Voilà. Donc tout ça, c'est
des sous-branches de l'artisan,
voilà.
L'artisanat verrier.
Voilà.
Ok. Donc toi, tu es spécialisé dans la soufflerie de verre?
Alors, le soufflage de verre.
Le soufflage ?
Ouais, la soufflerie, c'est là où on teste les avions.
Ah, j'aurais dit que c'était là où il y avait l'aération.
Ça marche aussi.
Alors, comment est disposé un atelier et quels sont les outils pour faire ça ?
Alors, il y en a plein. Il y en a plein, ce qui limite aussi beaucoup l'installation de nouveaux artisans ou de souffleurs de verre en général.
Ça va être un sacré investissement de départ, surtout.
Oui, ouais. Alors j'ai même plus les chiffres en tête parce que là, il y a eu un cumul de machines en 6 ans, mais c'est autour de 100 000 euros d'investissement. Il faut imaginer qu'on a un four de fusion qui est alimenté au gaz de ville, qui est à 1160 degrés à travail de fusion. Il y a un petit programme qui nous permet d'économiser un tout petit peu de gaz la nuit, mais il tourne H24 et 7 jours sur 7. On le coupe deux fois, une fois à Noël, une fois en été. Le reste du temps, il tourne tout le temps. Parce que faut imaginer qu'il y a un gros bol de fusion à l'intérieur qui est particulièrement fragile et qui supporte très mal les yo-yo de température. Donc ça, on évite de monter, descendre. C'est pour ça. Pour nous, ça nous coûte beaucoup moins cher de le laisser allumer et de pouvoir être réactif et produire tous les jours. Donc c'est un avantage comme un inconvénient. Tous les jours, il faut produire, tous les jours, il faut être productif et il faut créer de la valeur avec ce gaz qui s'envole. Donc ça, c'est notre premier outil. Le deuxième, c'est un deuxième four qu'on appelle un four de recuisson qui nous permet de stabiliser, de déstresser les fabrications parce qu'on ne peut pas laisser refroidir nos pièces à l'air libre. Et ensuite, pour façonner le verre, on a une multitude d'outils, de pinces, de ciseaux, de petites pincettes, de cannes à souffler aussi parce qu'on est souffleur de verre à la canne. C'est notre fameuse tige en inox dans laquelle on souffle qui nous permet de former des bulles et de créer tous les objets que j'invite tous les auditeurs à aller découvrir sur nos réseaux et sur notre site.
La matière première pour le verre. Alors moi, j'aurais dit que c'était du sable.
Oui. Oui, en partie. Alors, pas n'importe quel sable. Théoriquement, on pourrait le faire avec n'importe lequel. Nous, notre matière première, elle est parfaitement limpide et transparente et incolore. C'est pas du verre de bouteille qu'on va recycler. C'est un verre très spécifique qui, chimiquement, est adapté à la mise en œuvre manuelle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait pas. On achète ça, c'est déjà garanti par un fabricant. Et c'est une recette spécifique qui va faire que le verre, à haute température, il va avoir un palier de travail assez long et confortable pour cette mise en œuvre-là.
C'est bien qu'on découvre des métiers, on n'aurait jamais pensé que ça existait, un fabricant de verre spécial pour les souffleurs.
Ouais, et il y en a deux ou trois en Europe, c'est pareil.
Ah ouais.
C'est hyper succinct. Mais tout comme les outils que je t'ai cités tout à l'heure, c'est pareil, il y en a deux ou trois.
Fabricants, ça n'est pas beaucoup.
Il y en a très peu. Il y a un vivier à Murano, c'est dans la lagune de Venise, parce que historiquement il y a un gros bassin là-bas. Il y en a encore en République tchèque, il y en a en Scandinavie, mais après c'est très éparpillé. Parce que ça concerne très peu de personnes.
Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas le sable, c'est des pastilles, des pastilles de verre.
Le, chimiquement, c'est du sable, donc c'est de la silice plutôt. Okay. Ensuite, il y a de la chaux et de la soude. Ça, c'est les trois ingrédients principaux qui vont nous donner du verre à peu près limpide. Je t'épargne les micro-quantités de plein de petits trucs, parce que moi-même, je ne suis même pas sûr de ce qu'il y a dedans. Et ensuite, si on veut colorer le verre, ça se fait avec des oxydes métalliques. Et les oxydes métalliques, c'est exactement la même chose que des émaux. Donc on a du cobalt, du cuivre, du fer, de l'or, de l'argent, et avec tout ça, en mixant tout ça, les bons dosages, encore une fois, ça c'est pas quelque chose qu'on sait faire ni qu'on a envie de faire, parce que c'est hyper toxique à manipuler. Nous, on a un four de fusion qui est juste chargé en verre transparent, et on vient colorer ponctuellement avec de la matière froide qu'on remonte en température au moment voulu. Ce qui nous évite à avoir plusieurs fours avec plein de couleurs en fusion en même temps, dont on n'aurait pas forcément l'utilité. Ça c'est l'échelle industrielle qui le permet.
D'accord. Alors, au four, tu as dit 1160 degrés, c'est ça ?
Oui.
L'autre fois, ce qu'on n'a pas dit au début, c'est que je t'ai rencontré parce que je suis venue faire un atelier.
Exactement.
Au Tipeee Atelier. Et j'avais vu qu'il y avait beaucoup de bois dans un endroit où, en fait, tu me dis qu'il y a le feu.
Oui.
Il y a le four à 1160 degrés.
Mm-hmm. Le four est isolé. Faut se dire, c'est pas un gros feu de camp au milieu de l'atelier.
Non, c'est une espèce de grosse boule. Enfin, je sais pas comment dire.
Il a une forme d'œuf.
D'œuf, ouais. Ouais.
Il a une forme d'œuf.
Il n'y a pas des risques d'incendie avec du bois partout. Pourquoi ce choix du bois ?
Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'était esthétique. Parce que, en fait, dans mes pérégrinations et mon apprentissage, je suis passé au Danemark dans un atelier sublime qui avait vue sur le port. Et il venait d'être fait, donc il y avait un parquet au sol, des grandes baies vitrées. Ce four-là, d'ailleurs, qui est danois, que je n'ai pas acheté au Danemark, mais que j'ai racheté à un autre verrier qui lui-même l'avait acheté au Danemark. Donc, c'est des outils qui se transmettent. Cette ambiance de travail très épurée, c'est quelque chose que j'ai voulu garder et reproduire comme une marque de fabrique. Si on veut dépoussiérer le métier, il faut aussi dépoussiérer la façon dont on présente le métier au public. Et là, moi, j'avais envie d'un environnement beau, épuré. Donc, ça passait par le bois. Le bois, en fait, ça apporte aussi plusieurs aspects bénéfiques, surtout pour le dos. Parce que si on travaille sur une chape de béton, en fait, on se tasse les vertèbres, on se fait très mal à la longue. Ouais. On marche beaucoup, on piétine beaucoup. Et là, en fait, le bois, il apporte une légère souplesse qui fait que quand on travaille des grosses pièces et du lourd, il y a quelque chose qui est absorbé par le bois. Ensuite, il y a quelque chose de chaleureux esthétiquement, mais c'est aussi, ça permet d'éviter d'abîmer les outils. Du coup, tu as pu voir tous ceux que tu as manipulés, ils sont pour la plupart en métal. S'ils tombent par terre, ils pourraient se tordre ou ils pourraient s'abîmer. Là, s'ils tombent sur le bois, ils vont se planter dedans ou ils vont cogner, mais ils ne vont pas se tordre, ils ne vont pas s'abîmer.
On m'avait aussi dit que s'il y en avait un qui tombait, qui était chaud ou quoi, et s'il y avait un petit peu de feu qui tombait, vous le sentiez direct.
Ouais, parce que du coup, le c'est du...
C'est flippant, mais c'est pratique.
C'est imparable. Ouais. C'est comme le marqueur olfactif qu'il y a dans les bouteilles de gaz, on sent direct s'il y a une fuite. Là, c'est du Douglas, donc c'est un résineux. Il y a une moindre goutte de verre qui tombe dessus. Même si le verre n'est pas en fusion, on sent tout de suite une fumée hyper épaisse et caractéristique. On sait qu'il y a quelque chose par terre à un endroit. On a 3 secondes pour le trouver avant que ça prenne feu. Donc il n'y a rien de dangereux. C'est un truc qui est très encadré. Ouais.
Ok. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu comment on crée du verre? Alors je prends l'exemple d'un vase. J'aimerais que tu me fasses un vase à l'oral.
Un vase à l'oral. Alors, on préchauffe la canne, qui est notre tube dans lequel on souffle. On va aller prélever la matière. Ça s'appelle un cueillage. On cueille le verre. Pour un vase, on va le faire 2 fois, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de matière. Donc, on va mettre en forme une première bulle, qu'on va laisser figer. On va replonger dans le bassin de fusion pour recueillir du verre. Ensuite, ça, on va le mettre en forme avec une maillotche. Tu te souviens de cette étape?
Oui, c'était comme ça.
Voilà, la fameuse louche en bois dans laquelle on va faire rouler la boule de verre pour lui donner une forme ronde et régulière. Ensuite, on va souffler pour faire gonfler la bulle. Et un vase, si on le veut plutôt effilé et allongé, on va laisser travailler la gravité. On va laisser la bulle s'étirer d'elle-même en coulant. Tant que le verre est chaud, il va s'étirer, il va se mettre en forme quasi tout seul. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre la plupart du temps, c'est de laisser la matière, de la guider plutôt que de la contraindre. Donc quand on a besoin d'avoir quelque chose d'étiré, on laisse travailler la chaleur et la gravité qui sont finalement nos outils principaux, qu'on n'a pas cités tout à l'heure, mais qui font partie des notions les plus fines à appréhender. C'est pour ça que le métier, on dit qu'il faut une dizaine d'années pour faire un bon verrier, c'est notamment à partir de ces subtilités-là qui mettent du temps à être intégrées, quoi.
Ok. Alors, vu que vous êtes un métier d'artisanat, c'est pas tout fait à la chaîne. Est-ce que vous faites que des pièces uniques?
Alors, de fait, oui, parce que même si on utilise parfois des moules ou des calibres pour répéter une opération ou avoir une constance sur une série de verres, par exemple, ou même de vases ou de carafes, mais comme toutes les étapes sont pas mécanisées, il y a forcément, de fait, par le décor, la jonction de couleurs, etc., il y aura forcément une différence. Même si on fait 2 vases bleus, les 2 auront leur singularité. Des fois, on a des petites bulles dans la matière qui vont apporter la petite touche unique à chaque pièce. Donc, on est sur des micro-séries, mais chaque pièce est unique.
Voilà. Quand j'étais venue, vous étiez en train de faire une série pour un restaurant à Paris, je crois. C'était des fleurs coquelicots.
Allez,
pas des coquelicots,
oui,
c'était
bleu
et orange.
Ouais,
ça s'ouvrait vers le soir, vers le bout. C'était pour la lumière.
Mm-hmm.
Des abat-jours.
C'est des abat-jours, ouais. Absolument. En forme de tulipe.
Voilà. Voilà. Bon, après, il fallait regarder de près pour vraiment voir une différence. Mais sinon, c'était quand même vachement stylé, quoi, de voir que vous pouviez en faire beaucoup. Vous avez combien sur cette commande?
Alors, 100 pour la commande. On a dû en souffler quasi 130.
En cas qu'il y ait de la casse.
Ouais, bah, il y a eu de la casse, il y a eu des extras qu'il fallait fournir. Et il a fallu travailler différentes couleurs. En fait, le gros défi, c'était pas tant la forme, parce que ça, c'est des formes assez traditionnelles dans la verrerie. C'est d'ailleurs, les originaux, c'était pur art déco. Et c'était fait au début du siècle à Lunéville, justement, pas très loin de l'école que moi j'ai faite, dans le Grand Est, où il y a un vivier de verreries. Parce que là-bas, justement, il y avait des carrières de silice, il y avait des...
Ils ont exploité directement ce qu'ils
avaient. Voilà, il y avait le bois des forêts pour le combustible des fours. Et ces formes-là, ça allait, c'était plutôt les couleurs, parce qu'on s'est aperçu, ça c'était des originales qui ont été faites en... je sais pas, il y a quasiment 100 ans. Et en fait, il y a 100 ans, la recette des couleurs, elle n'était pas du tout la même qu'actuellement. Donc en fait, les jaunes orangés, ils étaient presque trop vifs par rapport aux anciennes couleurs qui étaient un peu plus ternes. Donc en fait, il a fallu trouver des interactions chimiques entre chaque couleur pour recréer le côté un peu terne, pour pas que ça fasse un intérieur trop pop, quoi. Ouais. Sinon, ça dénote.
Okay. Vous avez la main sur tout, hein.
Ah, on essaye.
Bon, en tout cas, on a bien appris pas mal de choses dans ces 15 premières minutes. Je pense qu'on peut en garder un petit peu sous le coude pour la deuxième partie de l'interview un peu plus tard.
Il y a encore plein de choses à dire.
Il y a plein de choses à savoir encore. On va pas écouter une musique de ta playlist, mais j'aimerais quand même proposer un petit jeu pour les auditeurs. C'est des places de concert à gagner pour la release party de Samir Flynn qui se déroulera au Rex le 21 octobre. Et pour cela, c'est facile, il faudra appeler le 05 61 580 580. Je redis, 05 61 580 580. Et on écoute tout de suite Big Aranx, My Face.
Give thanks for the time and the weather. Me have life, me no dead. Me have to climb up on the ladder. Sometimes it's hard for my sister, me brother. But we no fed up, the future we no afraid of. Yeah, I sunshine on my face. None of them could I take my place. Lift up myself to the top. You know we paper hot. Forward through the life we don't stop. Boom, I try to move intelligently. I make my music differently. Big up Mr. Brandy. I put my voice on a good frequency. Life it no sweet like a box of candy. But everything is good from God defend me. Wicked people want to rearrange me. But none of them I could I ever ever change me. Yeah, my sunshine on my face. None of them could I take my place. Lift up myself to the top. You know we paper hot. Mash up the dance we no flop. Sunshine on my face. None of them could I take my place. Lift up myself to the top. You know we paper hot. Forward through the life we don't stop. Boom. The sunshine rise and push away the rain. The rain in Spain falls mainly on the plane. Forward with the thinking of the future in my brain. The negativity we just have flush it on the chain. In my fortune cookie. You tell me me no rookie. Me squanny and skinny. But tell me no bookie. I just wanna have a good day. Count my blessings and share my prey. Yeah, I sunshine on my face. None of them could I take my place. Lift up myself to the top. You know we paper hot. Mash up the dance we no flop. Boom, sunshine on my face. None of them could I take my place. Lift up myself to the top. You know we paper hot. Forward through the life we don't stop. Boom. But we no fed up, the future we no afraid of. Boom, I try to move intelligently. I make my music differently. Big up Attili, big up Mr. Friendly. I put my voice on a good frequency. Life it no sweet like a box of candy. But everything is good from God defend me. Wicked people want to rearrange me. But none of them I could I ever ever change me. Yeah, my sunshine. We paper hot, mash up the dance, we no flop. Boom, sunshine on my face. None of them could I take my place. Lift up myself to the top. You know we paper hot. Forward through the life we don't stop.
Tu me le mets long sucré, s'il te plaît. C'est l'anecdote de la machine à café. J'ai pas fait exprès, en plus, celle-là, elle rime.
les anecdotes de la machine à café, c'est la petite chronique habituelle, je dirais hebdomadaire même, puisqu'on l'a à chaque fois, sauf la semaine dernière, parce qu'on n'a pas eu le temps, j'avais un invité très bavard. Du coup, on a beaucoup, beaucoup parlé, j'ai pas eu le temps de faire les anecdotes. Mais c'est pas grave, on se rattrape aujourd'hui, donc on va parler de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais demain, peut-être, quand tu verras ton collègue, alors je me rappelle plus son prénom.
Quentin.
Tu pourras lui raconter des choses, il va dire « Waouh, quelle culture !»
On essaye de se coucher moins bête tous les jours et d'apprendre, voilà, d'échanger des infos.
Tu ne saurais pas mieux dire. Alors, on va parler du ver à soie et de son papillon, le Bombyx du mûrier, ça s'appelle. Ça l'a rendu complètement dépendant des humains. L'élevage sélectif a renforcé les traits commercialement intéressants. Mais le papillon a perdu ses couleurs, sa peur des prédateurs et surtout sa capacité de voler. Il ne peut pas se reproduire sans les humains et l'espèce serait condamnée à mort dans la nature s'il n'y avait pas les humains.
Waouh.
Voilà, pauvre petit papillon. Sa domestication.
Est-ce que c'est le même papillon que dans Le Silence des Agneaux ?
Ah, je ne l'ai pas vu. C'est un film d'horreur, ça ?
Ouais.
Alors, je ne l'ai pas vu. Le Silence des Anneaux ou des Agneaux, je ne l'ai pas vu. Je ne saurais pas te dire, mais peut-être. Hein.
Ah. Il me semble, sur la couverture, il y a... Il y a l'actrice avec un papillon sur la bouche. Et
j'ai envie de chercher le ver à soie.
On se renseignera.
Bombyx. Alors, le nom, c'est Bombyx. On a le temps de chercher une image. C'est un papillon blanc, c'est ça ?
Ouais.
Ouais, il est blanc. Ouais, il est pas très beau, hein, celui-là. Hein. Je t'avoue que. Et le silence des agneaux. Le silence des agneaux. On cherche tout en direct, hein, avec des fautes d'orthographe, tout ça. Ah, non, c'est pas le même.
C'est un sphinx tête de mort, autant pour moi.
Voilà. Mais au moins, on en a la certitude et on a appris une deuxième chose.
Tu ne regardes pas de films d'horreur.
C'est vrai. Oui, c'est vrai. Je le regarderai peut-être pour le 31 octobre.
Ouais, ça arrive vite. Hein.
Le cerveau humain aurait environ 1 pétaoctet de mémoire. 1 pétaoctet, c'est 1 million de gigas, pour te donner 1 million de clés USB.
Waouh.
Voilà. Ou 1000 disques durs de 1 téraoctet. C'est pas mal aussi.
C'est pas mal.
Cette estimation est basée sur la capacité de stockage moyenne d'une synapse. Une synapse, c'est une zone située entre deux neurones qui assure la transmission entre les informations l'une à l'autre. Voilà.
Wow.
J'ai cherché, du coup, je me suis dit, une synapse, je ne connais pas. et du nombre de synapses qu'il y a dans le cerveau. Donc, c'est une estimation du à peu près. Mais je pense quand même qu'il y en a qui ont des synapses qui marchent mieux que les autres.
Oui. On n'est pas tous égaux, on n'a pas tous le même disque dur.
C'est ça. Les pistes d'aéroports sont régulièrement nettoyées à l'eau sous haute pression. Mais pourquoi ?
C'est une question pour
c'est
moi ?
C'est une vraie question, ouais.
Ça, c'est à cause de la gomme des pneus, non ?
Exactement, c'est la couche de caoutchouc polymérisée qui se forme lorsque les avions atterrissent. En effet, durant un bref instant, les roues, avant d'être mises en rotation, frottent le sol en portant le poids de l'avion. La friction élève la température qui entraîne du coup une polymérisation d'une partie de la gomme. Celle-ci se dépose sur la piste et durcit, abaissant grandement son adhérence. Donc pour les autres avions, c'est pas cool. L'abbaye d'Admont, c'est un monastère bénédictin quasi millénaire en Autriche. Il est notamment connu pour sa bibliothèque, la plus grande monastique du monde. Elle comporte plusieurs passages secrets, d'autres portes dérobées et habilement dissimulées derrière de faux livres. Ça va être super intéressant.
Waouh.
C'est un peu comme la bibliothèque de Poudlard, quoi.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Il y a la réserve secrète au fond, avec tous les livres interdits. Super intéressant.
J'imaginais un bar caché, mais oui, on peut voir.
Il y en a un bar caché à Toulouse, tu le connais ? L'agence.
L'agence, oui. Voilà.
L'agence près de Palais de Justice, et entre Palais de Justice et Carme. Oh, je remets ma petite musique. Et c'est arrêté. Lors de certaines journées, la route I-70 près de Floyd Hill au Colorado est fermé. L'angle unique du soleil pendant l'hiver, combiné à la topographie de la colline, crée en effet un éblouissement si intense qu'il rend la conduite extrêmement dangereuse. Des déviations sont mises en place en cas de coupure décidée au jour le jour, en fonction de l'angle et de la météo.
Waouh.
Wow.
Ils sont pas stressés.
Ouais, c'est ça. Est-ce que tu connais l'effet Osborne ?
Non.
Alors ça pourrait peut-être...
Me concerner ?
Ouais, mais non, en fait je pense pas. L'effet Osborne se manifeste lorsque des clients décident d'annuler ou de reporter leur commande d'un produit suite à l'annonce d'un nouveau produit. Ce nom vient en fait de l'ordinateur portable Osborne Executive annoncé en remplacement de l'Osborne 1 un an avant sa sortie. Donc en gros, ils ont su qu'il y avait une deuxième version. C'est comme si on dit la PS5 sort et après, avant même qu'elle soit sortie, tu passes à la PS6 et là, en fait, tous les gens, ils annulent leur commande et disent bon, on va prendre la PS6. Cette annonce met l'entreprise en difficulté, le précédent modèle n'arrivant plus à se vendre.
Ah.
En même temps, fallait s'y attendre.
Ouais. Bah, nous, on n'arrive pas à s'auto-démoder. Ça, ouais. On se sabote pas en créant.
Bah ouais, c'est ça.
Donc on est
c'est
pas,
différent.
Non, pour le coup, on n'est pas touché.
C'est pas une nouvelle technologie.
Non. Plus.
T'es pas à la course de la technologie.
On est de la low-tech.
Ouais.
Fait main et low-tech.
Et dernière anecdote, avec ses 35 saisons, la série Les Simpsons est souvent considérée comme la série télévisée d'animation la plus longue de l'histoire, mais elle est battue par The Bugs Bunny Show, qui fut diffusée de 1960 à 2000, totalisant 40 saisons. C'est quand même pas mal. Wow. Alors je me rends pas compte, parce que j'ai l'impression que Les Simpsons, c'est depuis toujours.
Ouais, moi aussi.
Et cependant, contrairement aux Simpsons, le nom et la durée de l'émission ont parfois changé. Donc ça n'a pas toujours été The Bugs Bunny Show. Et c'est pas tout le temps 20 minutes, ça peut être 25, 30, contrairement aux Simpsons. Et le mot du jour, c'est opprobe. Quelque chose d'opprobe. Ça te parle ?
Ah non.
C'est un mot...
On aura appris des trucs aujourd'hui.
Opprobe, c'est O-P-P-R-O-B-R-E. Ça veut dire qui humilie ou qui déshonore. Tu m'as opprobé.
Ah ouais.
J'imagine un adultère et la personne trompée qui dit « Tu m'as opprobé à son... Et il dit « Je m'en fous. » Voilà, bon, j'espère que je vous ai appris des petites choses. On va écouter encore une petite chanson de ta playlist. Je rappelle qu'il y a des places à gagner pour la release party de Samir Flynn le 21 octobre au Rex. C'est par téléphone ce jeu, c'est 05 61 580 580. Et tout de suite, on écoute le troisième titre de ta playlist, Thibaut. Il s'agit de Thomas Fersen, Pégase. On se retrouve juste après.
Et ça parle de papillons.
Ça parle de papillons,
ouais,
wow, encore mieux. Alors, je sais pas pourquoi elles sont si lentes à se lancer, ces chansons, aujourd'hui. Je crois qu'on n'a pas payé la facture. Ben voilà.
Je voltais dans les ténèbres, à l'allure d'un convoi funèbre. Je goûtais l'air de la nuit, je ramais sans faire de bruit. Dans l'épaisseur du silence, lorsque je fus ébloui par une chaude incandescence qui émanait d'un beau fruit. Ma mère m'avait prévenu, méfie-toi des ampoules nues, ne t'approche pas de ces globes qui mettront le feu à ta robe. Les papillons insomniaques y trouvent un aphrodisiaque, la mort est au rendez-vous. Tu deviendras fou. Ne va pas te consumer pour une de ces allumées. Ma mère m'avait dit Pégase, l'amour ça n'est que du gaz. Tu es un être nocturne, adorateur de la lune et des éclairages pâles que prodiguent les étoiles. Blanche et le dessin de ses hanches dans une auréole blonde. J'ai fait mes adieux au monde, à la lune vagabonde, belle comme une femme amoureuse, à ma raison qui me gronde. C'est ta tombe que tu creuses. Je voltais dans les ténèbres, à l'allure d'un convoi funèbre. Je goûtais l'air de la nuit, je ramais sans faire de bruit. Dans l'épaisseur du silence, j'ai vu ma vie défiler jusqu'au jour de ma naissance, lorsque l'ampoule a grillé.
19h à peu près, 20h à peu près aussi, c'est le 19 hors taxe sur FM.
Le 19 hors taxe, on reprend du coup l'émission, on reprend l'interview de Thibaut du Tipeee Atelier qui est du coup souffleur de verre. On va en apprendre un petit peu plus. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire un petit rappel sur les techniques que tu utilises ?
Alors, on est sur du verre soufflé. Comment synthétiser ça ? Grosso modo, on souffle des bulles qu'on déforme, qu'on colore et que parfois on assemble.
Okay.
Il faut synthétiser.
Ouais, c'est très bien synthétisé. Alors, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas. Il paraît que souffler, c'est vraiment pas facile.
Alors, souffler, il n'y a aucune étape qui est facile quand on ne connaît pas. Après, avec l'expérience, on arrive à trouver des petits raccourcis. Ce qui est hyper compliqué, c'est de prélever la matière suffisante pour faire l'objet en question et après d'enchaîner tous les bons gestes au bon moment.
Vous ne pouvez pas peser.
Pardon ?
Il n'y a pas de balance pour peser.
Non, il n'y a pas de balance. Une fois qu'on a sorti la matière, on doit se débrouiller avec ce qu'on a pris. Donc, si on n'en a pas assez, il faut attendre que ça refroidisse, on peut replonger, etc. Donc, c'est ce qui explique aussi que ce soit hyper long en apprentissage et en pratique.
En combien de temps ça dure du coup pour créer un vase ?
Un vase, c'est une grosse demi-heure.
Une demi-heure pour un vase.
Ouais, une demi-heure, trois quarts d'heure. Au-delà de ça, en fait, c'est pas rentable.
Ouais.
Il faut qu'on arrive à trouver des rapidités d'exécution, des process qu'on arrive à choper.
Ok. Comment ? Alors, on a parlé un petit peu de toi au début, mais est-ce que tu nous as raconté quelles études il fallait faire pour devenir souffleur de verre ? Je crois pas.
Alors, non.
On a parlé de tous tes voyages. Pour
ouais, on a parlé des voyages. Alors,
qu'est-ce
qu'il faut faire pour être souffleur de verre ? Alors, là-dedans, il y a plein de questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être souffleur de verre technique ? Ça, c'est un CAP et un BMA, c'est un apprentissage. Il y a trois écoles en France.
Où ? Il y en a une à Toulouse ?
Non, pas du tout, évidemment. Bon. Non, bien sûr. Non, il y en a une à Moulins dans l'Allier, il y en a une à Sarrebourg en Moselle et il y en a une vers Nancy.
Ok.
Si vous voulez les adresses et plus d'infos, contactez l'atelier Tipeee par mail, on vous répondra, on vous donnera tout ça. L'apprentissage technique qui se fait en général chez un patron. Il y a certaines écoles qui proposent de l'alternance, sinon c'est la formation continue ponctuée de stages en entreprise. Et après, c'est marrant, on peut reboucler avec une des premières questions quel est mon métier ? Moi aujourd'hui, je suis patron, je suis employeur, je suis à la compta, c'est moi qui gère les mails, c'est moi qui fais les devis, c'est moi qui m'occupe des grosses pièces et des commandes sur mesure qui sont un peu plus touchy. Qu'est-ce qui forme à ça ? C'est le terrain. C'est le terrain. Moi, j'ai la chance d'avoir d'être passé par des études d'art appliqué, donc j'ai fait un bac avant mon CAP. Et ce bagage d'art appliqué, ça me permet de savoir dessiner, d'avoir la gymnastique de conception, de savoir créer et d'agencer soit différentes techniques, soit différents acteurs, différents artisans, une autre matière qui vient en ligne de compte pour un luminaire, par exemple, quelque chose que je ne maîtrise pas, mais il va falloir trouver la personne ou le fournisseur ou l'objet qui existe déjà sur le marché pour pouvoir assembler tout ça. C'est un gros jeu de Lego, mais des fois c'est
super prenant, je pense.
C'est ultra prenant.
Et quand tu trouves à la fin, tu te dis waouh, j'ai fait ça et je suis parti de ça.
Ouais, ouais. Ça c'est hyper grisant.
La satisfaction.
Ouais, énormément. Ça rend un peu accro à l'adrénaline de création. Une fois que la pièce elle est terminée, le but il est atteint, donc il faut trouver un autre saut en parachute à faire, quoi.
Ouais. Est-ce que tous les verres, même ceux qu'on utilise tous les jours pour boire, sont des verres soufflés ? J'imagine que non.
Alors, c'est soufflé par la machine. Il y a des machines qui savent tout faire. La bouteillerie, par exemple, les bouteilles, elles sont faites dans des moules. Et il y a un robot de A à Z jusqu'à la fin. Il y a très peu d'interventions humaines. Mais pour respecter des cadences et puis des précisions de contenance aussi, il n'y a que l'industrie qui permet de faire ça.
Est-ce que les verres soufflés sont plus résistants ou plus fragiles que les verres faits industriels, enfin les verres soufflés de l'artisanat ?
Alors, les verres Tipeee, par exemple, sont de fait un peu plus épais parce que, comme on les fait à la main, on ne peut pas les faire trop fins. S'ils sont trop fins, on va à peine les mettre dans le four qui vont froisser, ils vont chauffer très vite. Donc structurellement, il faut qu'ils soient assez épais pour qu'ils tiennent eux-mêmes. Donc, fatalement, ils sont un peu plus costauds. Ils peuvent rebondir une ou deux fois de plus.
Oui, c'est combien le max?
Ça dépend des pièces.
Ton record. Alors justement, quelle est, en parlant de pièces, quelle est la plus belle pièce que tu as fait?
Oh. La réponse bidon, c'est celle que je n'ai pas encore créée.
Ouais.
Une des dernières collections dont je suis très fier de l'avoir abouti, c'est... j'ai fait une série de luminaires qui s'inspire de...
J'attendais pas ça, parce que j'ai mon copain qui a regardé ton site web et qui m'a dit « Waouh, ça c'est trop beau !»
C'était quoi?
Les vers Kraken.
Ah, les vers Kraken, ouais.
Ouais.
Et il nous en reste 3, et après on les fera peut-être plus.
Plus du tout.
Mmh. Ouais, parce
faut qu'ils se dépêchent, hein.
Faut qu'ils se dépêchent,
il m'a dit pour mon nouvel appart, tic-tac, je vais acheter des vers Kraken.
Il en reste 3. L'info est lancée.
Ouais.
Alors ça faisait partie, c'est marrant, les vers Kraken, c'est un truc que j'ai dessiné pendant mes études, parce que j'ai eu un délire de poulpe, de tentacules et tout. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que j'ai des dreads hyper longues, donc l'analogie aux pieuvres, aux tentacules et tout.
Voilà. Tu peux en venir où?
Voilà, c'était ça le lien. Donc les vers Kraken, c'est un truc que j'ai dessiné il y a hyper longtemps, mais que j'ai été capable de réaliser techniquement que ben, là, il y a 3-4 ans. Voilà.
Donc il avait essayé plusieurs fois et ça avait
pas. Non, c'est qu'il y avait plein de trucs, c'était pâteau, c'était grossier. Là, j'arrive à avoir une finesse d'exécution qui me satisfait et qui me paraît être à la hauteur de ce que le projet était au moment où je l'ai dessiné. Mais du coup, ce dont je suis très fier, c'est un travail sur des dégradés de ciel, les couleurs comme ça de l'aube. La collection s'appelle Aube.
Ouais,
ces couleurs que je vois moi le matin en partant en voiture au loin devant les Pyrénées. Voilà, d'avoir ces couleurs-là qui changent tous les matins et d'essayer d'encapsuler ça dans un luminaire.
Trop bien. Vous proposez aussi des ateliers de création, donc c'est ce que j'avais fait justement pour découvrir. Est-ce que n'importe qui peut venir? Il suffit de s'inscrire? Comment ça se passe?
Ça se passe très bien, de manière générale, et tu peux en témoigner.
Oui.
Alors, pour les réservations, je tease un peu le truc, mais on va sortir un nouveau site. Notre nouveau site va être en ligne a priori la semaine prochaine ou dans 10 jours maxi. Du coup, toutes les réservations pourront être 100% autonomes. Vous irez sur le site, il y a une rubrique initiation, là vous vous laissez guider. Vous pourrez acheter une carte cadeau qui sera valable un an, qui va vous donner un code, et ce code-là vous pourrez l'utiliser pour rendre une réservation effective selon les créneaux qu'on va mettre en ligne aussi d'ici quelques jours. Une fois que la date est réservée, il y a différentes formules et je vous laisse explorer ça, choisir celle qui vous convient le mieux. On vous accueillera à plusieurs personnes. On vous décrira la salle de jeu, à savoir les fours dont on parlait tout à l'heure, les outils, et chaque personne va pouvoir choisir l'objet qu'il va vouloir réaliser. Et en conséquence, nous, on va décortiquer les étapes, on va faire un petit dessin. Ça, c'est le bagage à appliquer qui revient. On a tous les croquis de toutes les étapes, comme ça, les personnes peuvent savoir quel outil utiliser à quel moment pour pas être surpris. Et comme ça, ça permet de transmettre et notre passion et notre quotidien et de rendre un peu plus tangible la difficulté qui est de faire des lignes droites et bien nettes avec une matière qui est hyper molle. On travaille du caramel quotidiennement. Et ça, en plus, ça fait de belles rencontres et on partage nos coulisses et ça permet de sociabiliser aussi. Parce qu'on aurait vite tendance à rester dans notre grotte comme des ours.
Mais c'est trop cool, hein, de pouvoir partager votre passion comme ça.
Mmh.
Et alors du coup on arrive, on reçoit un petit mail avant pour nous dire réfléchissez à ce que vous voulez créer.
Oui.
On est libre de créer ce qu'on veut dans une limite de taille.
Ouais, il y a la taille, c'est une douzaine de centimètres, c'est la grosse demi-heure impartie de façonnage effectif par personne qui passe très très vite, et c'est un cueillage, un prélèvement de matière. Donc on est aussi limité par la taille et par le temps avec cette contrainte là.
J'ai aussi vu que tu avais créé une association.
Oui.
Qui s'appelle la FAT.
La FAT, ouais. La Fédération des Artisans d'Art de Toulouse. Alors, je ne l'ai pas créé seul, loin de là. On est plusieurs adhérents. Il y a le bureau, on a Laura Demichelis, qui est bronzière d'art, que je salue. Il y a Pauline Rock, qui est trésorière. Elle est perlière d'art. Donc, on parlait tout à l'heure de chalumeaux, de verre filé, ouais. Tout ça. Ça, c'est son métier, à Pauline.
Ah ouais.
Et nous avons Emma, qui est... Tout fraîchement diplômé des Beaux-Arts et qui a fait ça à Brest, mais qui est toulousaine d'origine et qui veut s'investir auprès de la FAT et qui vient nous aider dans cette démarche-là. Voilà.
Ok, mais du coup, quel est le but de cette association?
Alors, la FAT, elle a plusieurs missions. La première, c'est de fédérer, de rassembler les artisans entre eux, que ça puisse devenir un réseau et de partager les bons et les mauvais plans. Ensuite, de gagner en visibilité. d'être un interlocuteur unique, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a, il y a beaucoup de demandes autour de ça, et ça pourrait être un vecteur de commande, par exemple, un des prescripteurs, un architecte qui aurait besoin de différents corps de métier. Là, la FAT serait l'interlocuteur unique pour recentrer toutes les demandes.
Voilà, centralisé. Voilà, super, exactement. Très bonne idée en tout cas.
Et à terme, on aimerait gagner en visibilité. C'est un peu dans la continuité de ce qu'on a voulu mettre en place avec Tipeee, d'un atelier ouvert sur la ville, que le public citadin, mais pas que, ait accès à l'artisanat d'art, donc via une boutique ou via des espaces de médiation qui permettraient de partager pour des artisans, par exemple, qui travaillent dans leur garage et qui n'auraient pas la possibilité d'accueillir chez eux. Là, il y aurait des espaces. Donc ce lieu magique, pour le moment, il n'existe pas, mais dans nos rêves, c'est très concret. Et on essaie de...
un espace de coworking artisanal.
Voilà, exactement.
Souvent, c'est ça pour les informaticiens et tout, mais là, ce serait bien qu'il y ait tous les outils, quoi.
Ouais, ouais, exactement.
Alors, je reviens vite fait sur le fait d'acheter des créations. Il y a une mini boutique, en gros, il y a un espace boutique dans l'atelier qui permet vous exposer certaines, dont les vases dont tu parlais avec le dégradé.
Ouais, exactement.
Il y en a pas mal, cette collection. Donc, du coup, si on veut aller acheter un nouveau verre pour mamie, pour Noël, on peut venir directement à l'atelier.
Absolument.
Et vous pouvez nous accueillir sur des horaires de...
De 9h à 17h, du mardi au samedi. Dans le doute, vous demandez à Google Maps, ils sont très bien renseignés. Sinon, il y a toutes les infos sur le site. Et dernier doute, après, vous pouvez toujours aller par toutes les messageries, par mail et par les réseaux sociaux. On est assez réactifs.
Et si, par exemple, j'ai une pièce en tête et que j'aimerais la faire fabriquer, ou alors j'ai cassé mon couvercle de mon petit terrarium, est-ce que vous savez les refaire?
Alors ça dépend quoi. Le couvercle du terrarium, non, parce que c'est du verre plat, ça rentre pas dans notre champ d'action. Les pare-brises non plus.
Ça c'est Olivier.
Les vitres de four non plus. Mais tout ce qui est dans la mesure du possible, il y a des choses qu'on peut réparer, qu'on peut recoller. Et si la pièce est trop abîmée, on peut ressouffler quand il s'agit de vases, ou quand la technique est le verre soufflé, on peut reproduire ou produire à la demande. Ça peut être une création ex nihilo par des particuliers ou des professionnels. On est ouvert à ça. C'est les trois fers de lance de l'atelier.
Trop bien. J'ai vu qu'il y a quelques années, je ne sais pas si c'était 2021 ou 2022, vous aviez créé un vide atelier aux abords de Noël.
Oui.
Est-ce que par hasard, il n'y a rien prévu là pour les mois qui arrivent?
Alors, heureux hasard, oui, parce que Noël tombe tous les ans. Et là, cette année, ce sera le dimanche 10 décembre.
10 décembre.
Ouais.
Donc du coup, il faut venir à l'atelier et potentiellement avoir tous les petits vases, les petits verres.
Oui, qu'on va sortir uniquement pour ce jour-là.
Du
coup, c'est des prototypes, des essais, des tests de couleurs, des tests de formes, des commandes parfois que les gens ne sont pas venus chercher.
Ah oui.
Oui, ça arrive. Très rarement, mais ça arrive.
Ceux-là, c'est les plus laids. C'est ceux qu'ils ont fait eux en atelier.
Non.
Parce que moi, le vase que j'ai fait, je peux te le donner en vente, tu vas pas en prendre cher, hein, s'il était pas très beau.
Non, ça, en général, les gens viennent les récupérer. Il y en a qu'on a fini par refondre, qu'on a choisi de pas revendre, parce que c'est éthiquement, c'est pas correct et c'est pas dans la ligne de ce que produit l'atelier, effectivement.
Ouais. Comment est-ce qu'on vous retrouve sur Internet?
Alors, si vous tapez souffleur de verre Toulouse, vous allez facilement tomber sur notre site. Si vous cherchez Tipeee Atelier, vous retomberez aussi sur nous. Et après, vous retomberez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, même TikTok maintenant.
Oh.
Oui.
Oh.
Oui, oui. Et donc en cherchant Atelier Tipeee, T-I-P et 2-I à la fin, c'est pas un Tipeee, c'est Tipeee, tout simplement.
Très bien. Et est-ce qu'il y a encore des places pour les ateliers?
Alors, en 2024, oui. Là, on est complet jusqu'à Noël.
Ah ouais, non, mais je me rappelle que c'était la galère. Vous avez trop de demandes. Parce que, en fait, en même temps, vous avez besoin de travailler à un moment donné.
Oui.
Donc,
On fait ça uniquement les samedis.
Voilà.
Et à la demande, parfois en semaine, mais la priorité est à la production quand même. Les créneaux de 2024 seront mis en ligne d'ici la mi-novembre. Et comme dit, tout sera automatisé, normalement.
Trop bien. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour, non?
Je crois que oui.
Est-ce qu'il y a une question que je n'aurais pas posée?
Ah, certainement, il y en a plein.
Ouais,
il y aurait plein de choses à en dire, mais une heure, c'est beaucoup trop court pour faire quelque chose de concis.
Et ouais. Bon, on va écouter une petite musique, alors.
Ouais.
Un autre titre de ta playlist.
Avec
alors,
plaisir.
Cette fois-ci, ce sera le prochain, tout simplement. Il y a encore un petit lag. Alors... Je pense que j'ai un petit bug. Donc, je vais juste lancer une dernière fois le jeu pour les places de concert de la release party de Samir Flynn. C'est le Orex de Toulouse le 21 octobre. Si vous voulez gagner ces places, il suffit de nous appeler 05 61 580 580. Donc ça c'est facile. N'hésitez pas, appelez-nous pendant la chanson et ça y est, la chanson arrive. Il s'agit de la Cocoon, Choupi.
Oui, Choupi.
La seule chanson que je sais faire au ukulélé. C'est parti.
Les sorties ici à Toulouse, c'est l'heure de l'agenda dans le 19 hors taxe.
L'agenda du 19 hors taxe, ça sent la fin de l'émission, je pense. À chaque fois, c'est pour vous pas que vous vous ennuyez pendant la semaine et pendant le week-end qui arrive, donc ça veut dire que l'émission touche à sa fin. Il est 19h53 et du coup, on va parler un petit peu sur les activités. Alors, est-ce que tu es trouillard ?
Ça dépend. Non, je vais dire que non.
Non, non, je suis un bonhomme.
j'ai pas peur du feu, mais j'ai peur de plein d'autres trucs.
Ouais, c'est vrai. Les escape games, ça te plaît peut-être ?
Ouais, j'adore.
Eh bien, il y a un escape game spécial zombie qui va sortir là pour du 21 octobre au 5 novembre. Et ça se passe à l'Enigma Escape. Donc, c'est une boîte qui fait des escape games.
Hein. Ça dédicace à ma chérie. Elle est fan de ça.
On va... Ah ouais, ouais. Bah, tu peux l'amener. Alors, ça s'appelle Oh No Zombies. C'est un escape game à partir de 16 ans qui nous plonge dans un monde assez terrifiant où une épidémie a transformé la quasi-totalité de la population en morts-vivants. Oh. Et du coup, vous êtes le groupe de survivants qui part à la recherche d'un possible remède. Est-ce que vous alliez y arriver ou pas ? C'est la question, quoi. Dans le temps imparti, évidemment. C'est là... Oui, le challenge. Mais il y a plein d'escape games à Toulouse en ce moment qui font qui le font toute l'année. Mais là, c'est vraiment le moment de faire des trucs pour se faire peur.
La dernière fois, moi, j'ai hurlé comme un gamin.
Ah ouais.
Je suis refait à voir. Je suis trop bon public pour ça.
Donc, les infos sont sur enigmaescape.fr. Et le prix, c'est, je pense, une trentaine d'euros à peu près. Ça dépend combien vous êtes après. C'est souvent des prix dégressifs si vous êtes plus nombreux. Ensuite, parlons musique. Il y a le lancement du festival Vision Musicale 2023 qui se passe à l'Utopia de Tournefeuille du 16 au 22 octobre. Donc ça a déjà commencé, mais ça se prolonge encore quelques jours. C'est la troisième édition. Et pendant ces 7 jours, et dans 3 cinémas différents, l'Utopia Tournefeuille, l'Utopia Bordeaux Rouge et l'American Cosmographe, il y a de nombreuses projections qui ont lieu, ainsi que des DJ sets, des concerts et des expositions. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur Internet sur ce festival qui s'appelle les Visions Musicales 2023. Si vous êtes plutôt musique électro, vous pouvez aller dès ce soir. Je crois que c'est ce soir. Ouais, ouais, c'est ce soir, à partir de 20h, dès que l'émission raccroche, boum, vous allez au Perpénard. Au Perpénard, où en fait, il y a une soirée électro. Ça s'appelle Entropie 2, qui vous amènera jusqu'à la fermeture des lieux, jusqu'au bout de la nuit, avec une programmation permettant de retrouver des sons acides ou trans et la présence de Cantal Goyave, ça m'a fait rire. Cantal Goyave, Snail, DJ Spacio Solette et Nuki. Donc c'est ce soir, à partir de 20h au Perpénard. Pour les plus poétiques d'entre vous, il y a une nocturne au Lampion, au couvent des Jacobins. C'est trop mignon. Donc vous pouvez visiter le couvent des Jacobins avec de simples lampions. Donc c'est pour voir sous un nouvel angle justement cet édifice à Toulouse, qui est très réputé. Vous serez accompagné par des professionnels passionnés qui pourront alors vous aider à vous diriger dans les couloirs. Et ces pièces habituellement pleinement éclairées, qu'on les retrouve ainsi dans sous un autre angle, ce sera ce soir également. Mettez vos baskets, c'est à 20h30 au couvent des Jacobins.
Après le Perpénard.
Exactement, une demi-heure de Perpénard et après tu cours au Jacobin. Puisqu'on était sur les lumières, je continue le festival Lumière sur les quais, au quai des Savoirs. Donc ça, c'est à Jules Guest. C'est très joli aussi, c'est des petites expos pour faire briller Toulouse de mille feux. C'est la 9e édition des Lumières sur les quais et son thème, c'est un essai joué avec le feu. Ça te correspond bien.
Ah, c'est pour
bien.
Moi, ça. Ouais. Bah oui, mais l'expo, je l'ai pas faite, mais j'ai vu et j'aimerais beaucoup aller la voir.
Ouais, c'est les sciences et l'art se mêleront à des expositions, des animations et des conférences et à des ateliers créatifs. Et ça, c'est du vendredi 20 octobre au dimanche 5 novembre au Quai des Savoirs. Sinon, on en parle beaucoup aussi, le Brick Live Festival. C'est au Mythe. C'est en fait un festival des Lego. Mm-hmm. C'est rigolo, il va y avoir plein de sculptures pendant une semaine, et c'est pendant les vacances scolaires, donc c'est à partir de samedi jusqu'au 29 octobre, de 10h à 18h30 au Mythe. Il y aura une piscine de briques, un mur de graffiti, une rampe de course, d'un concours de construction de Lego, quoi.
Surtout,
voilà, il y a plein de choses. En fait, c'est le thème des dinosaures cette année. Si vous avez envie d'amener vos enfants, ils vont se faire plaisir s'ils aiment les dinosaures.
Non, on a un bébé là qui commence à jouer avec les dinos et moi je suis un red dingue de Lego. Donc,
voilà.
Je l'ai vu passer sur un bus, je l'ai envoyé à ma chérie. Donc,
Voilà, tu vas y aller, tu sais quoi faire pendant les vacances. Est-ce qu'on parle un petit peu de la douleur de marcher pieds nus sur un Lego?
Oui.
Ça t'arrive déjà?
Pour le moment, on est sur des duplos, c'est encore pire.
Tu
te casses une cheville en fait.
C'est très gros. dimanche, il y a le dimanche des créateurs sur la place Saint-Pierre. Donc il y a eu plusieurs dimanches déjà, là c'est le dernier de l'année, donc n'hésitez pas, allez-y, ça vous permettra de découvrir des pièces faites à la main, de la déco, des bijoux, des vêtements, le tout réalisé par des créateurs toulousains et des environs pour votre plus grand plaisir. Donc c'est dimanche 22 à partir de 10h sur la place Saint-Pierre. Et il est 19h58, je pense que l'émission va toucher à sa fin, j'aimerais que tu nous fasses 45 secondes de l'invité, je sais pas si... Si tu t'en sens capable, c'est 45 secondes, tu vas pouvoir parler de ton activité.
Ouais.
Ou alors, si tu veux nous raconter une blague, tu peux aussi l'utiliser comme ça. Chacun son choix. Tu veux dire bonjour à ton bébé, à ta femme qui t'a
Mais non, mais le bébé, il dort depuis longtemps, mais bonjour à ma chérie, oui.
Allez, 45 secondes 45 de micro ouvert pour toi. C'est parti.
Ben non, j'ai envie d'inviter les auditeurs à venir nous rencontrer, à venir découvrir les coulisses du verre soufflé. Là, on arrive dans la meilleure saison. Il commence à faire bien froid dehors. Chez nous, comme le four est allumé à 24, il fait un petit 25-30, pas dégueu, par les temps qui courent. Et voilà, venez nous rencontrer. On mord pas, on fait pas peur, on est sympa et on fait de belles choses. On essaye en tout cas.
On se rend pas compte, mais 45 secondes, c'est long. Hein. Ouais. T'en étais à 23.
C'est vrai.
Bravo, t'es resté dans les clous. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Vivien d'avoir écouté et de ne pas être venu. Et du coup, merci Thibaut de nous avoir
fait
découvrir ce métier très poétique, en tout cas.
Merci Mélanie d'avoir beaucoup. Fait découvrir les coulisses de la radio.
Merci Mélanie d'être venue faire un vase moche. Sinon, j'aurais pas pu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et je vous laisse en compagnie de Emmanuel et Rhythm and Soul pour une heure d'émission musicale. Et je vous fais des bisous.
Ciao, ciao.